Oh non, monsieur, avec Jupiter et Uranus en Sagittaire, je ne vois aucun cambriolage chez vous dans un avenir proche.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah tout à fait sûr. Vous savez, les cartes ne mentent jamais, monsieur.
Pour partir tranquille, confiez plutôt votre maison aux professionnels Vérissure. Vérissure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Par contre, je vois quelqu'un devant chez vous avec un pied de biche en ce moment.
Pardon? Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La longue lutte de l'humanité contre la souffrance physique est au cœur de l'histoire cet après-midi avec Franck Ferrand et son invité. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Mon invité est Antoine de Beck, professeur à Normale Sup et que vous connaissez surtout pour ses travaux sur le cinéma, bien entendu. Eh bien Antoine de Beck s'intéresse aussi de près à l'histoire culturelle dans les temps modernes et il vient de publier un passionnant petit ouvrage intitulé En d'atroces souffrances. C'est l'esquisse d'une histoire de la douleur. Et je vais commencer cette émission, comme je le disais à Wendy il y a un instant, par évoquer les origines de l'anesthésie. Voilà qui nous concerne tous à des titres divers.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stéphane sur l'origine des bateaux-mouches.
Mais cette saison, les bateaux-mouches, je crois qu'il y a du vent aujourd'hui sur Paris. Pour le moment, je vous propose d'aller faire connaissance avec un jeune dentiste américain du milieu du 19e siècle.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je ne sais pas si vous connaissez Hartford, Dublin. C'est une petite ville, surtout à l'époque dont je parle. C'est la modeste capitale de l'État du Connecticut. Nous sommes en 1844, en décembre 44. Le Connecticut, vous voyez, c'est au nord-est des États-Unis, entre New York et Boston. Et ce jour-là, le journal local, qui s'appelle le Hartford Courant, comme il a l'habitude de le faire, relaie une annonce pour un des petits événements qui animent la vie de la cité. Aura lieu dans l'Union Hall, une grande démonstration au cours de laquelle il sera inhalé du gaz hilarant. 200 litres de gaz seront à la disposition du public. 12 jeunes gens se sont déclarés prêts à inhaler du gaz pour amuser le public. Le gaz ne sera respiré que par des membres de la meilleure société, car cette réunion doit garder un caractère respectable et d'une haute tenue scientifique. Bah oui, tout de même, il faut que les apparences soient sauves. C'est le genre d'événements qui sont à mi-chemin entre le spectacle comique et l'expérience scientifique. C'est extrêmement courant à l'époque. J'allais dire la chimie amusante. En tout cas, ces espèces d'expériences que font non seulement des médecins du reste, mais aussi des psychologues. Enfin, tout ça nous entraînerait un peu loin. Voilà ce que raconte Antoine de Beck. Des showmen ambulants vont de ville en ville, de bourg en bourg, avec leur laboratoire portatif pour y proposer des conférences éducatives, attirant le public par des boniments pittoresques. Dès qu'ils ont rassemblé un certain nombre de spectateurs, ils tendent une corde derrière ceux qui sont assez hardis pour respirer le fameux gaz. Alors, ce fameux gaz, ce gaz hilarant, comme on l'appelle, c'est du protoxyde d'azote, tout simplement. On en maîtrise la recette depuis le 18e siècle, ses propriétés ont de quoi divertir, puisque quand vous inhalez ce protoxyde d'azote, eh bien vous êtes dans une sorte d'ivresse immédiate et vous êtes saisi d'un rire extraordinaire, un rire incontrôlable. Et puis en même temps, ça vous endort un peu, bien entendu. Au 19e siècle, il est fréquent que ce gaz soit utilisé à des fins ludiques. On l'utilise notamment lors des fêtes, vous savez, les banquets étudiants de fin d'année, pour des événements comme celui qui est organisé, donc à Hartford, ce 10 décembre 1844, pour amuser la société cultivée locale. Dans l'assistance ce jour-là se trouve un certain Horace Wells. C'est un dentiste, un jeune dentiste, il a 29 ans, il est plein d'ambition, il est surtout d'un esprit très curieux, très ouvert à toutes les nouveautés. Il est attentif aux expériences du conférencier qui assure le spectacle, il observe les espèces de cobayes volontaires, là, et d'ailleurs parmi eux, il reconnaît un de ses voisins, et visiblement, l'homme est particulièrement excité sous l'effet du gaz. Sans avoir plus la moindre maîtrise de lui-même, ce bonhomme va se blesser, se cogne en fait violemment contre un des bancs, il a une plaie sanguinolente, or il a l'air de trouver ça tout à fait normal, ça le fait rire, il n'a pas du tout l'air de souffrir. Et visiblement, la douleur ne l'atteint pas, comme si ce gaz dissipait toute souffrance. Et là, Horace Wells, bien entendu, réagit, il se dit « Mais et s'il était possible d'utiliser ce gaz pour faire mes extractions dentaires ?» Parce que vous savez, quand vous êtes dentiste, et je sais que nombreux sont les dentistes qui nous écoutent à cette heure-ci, je les salue bien sûr très chaleureusement, c'est un métier qui est assez pénible de voir les gens souffrir comme ça à longueur de journée. Alors, de moins en moins aujourd'hui, grâce précisément au progrès de l'anesthésie. Vous savez, cette idée de faire disparaître la douleur physique, cette morsure d'essence qui vient perturber le cours de nos vies et qui souvent en marque la fin, ce vieux rêve, l'humanité le poursuit depuis des millénaires. Si vous allez dans la Genèse, dans la Bible, il est question déjà d'une anesthésie. Lorsque Dieu prend une côte d'Adam pour modeler Ève, alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, une anesthésie, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Mais ça, c'était dans la Bible, évidemment, et c'était Dieu qui était capable de faire ça jusque tard. Bien sûr, toutes les civilisations ont eu leurs petites recettes. Certains ont utilisé l'opium ou la coca, enfin, etc. On pratiquait des anesthésies locales, semble-t-il, dans l'Égypte ancienne. Mais enfin, rien de très efficace, rien à voir avec cette anesthésie moderne qui va se développer à partir du 19e siècle, et notamment grâce à notre fameux dentiste, à notre Horace Wells. Dès le lendemain de l'expérience publique qui avait eu lieu à Hartford, Wells va essayer ce gaz. Il va tenter l'expérience sur lui-même, comme on doit faire dans ce cas-là, avec l'aide d'un de ses confrères, et puis du fameux conférencier qui la veille avait assuré le spectacle. Et c'est un succès. Bien qu'on lui arrache une dent, il ne souffre pas du tout grâce à cette inhalation massive de protoxyde d'azote. À peine l'effet du gaz hilarant s'est-il dissipé, que Wells s'écrie avec enthousiasme « Une ère nouvelle s'ouvre dans la chirurgie dentaire ». Lui qui avait des difficultés financières, il comprend très bien que ça va peut-être être le tournant de sa carrière, cette histoire. Son objectif, c'est s'installer à Boston et s'y imposer comme le dentiste, le seul de la ville, le seul des États-Unis, le seul du monde entier à l'époque, qui soigne ses patients sans souffrance. Vous imaginez ça? Il décide d'organiser une démonstration publique de sa découverte à l'université d'Harvard, devant des étudiants, devant toutes sortes de sommités du monde professoral. Un volontaire a été trouvé pour participer à l'expérience. Hélas, il est mal anesthésié, le cobaye en question. Il exprime une vive douleur au moment où le dentiste veut lui arracher sa dent. Alors, on entend des huées dans la salle. Vous imaginez, le pauvre Wells est complètement humilié. Il rentre à Hartford complètement discrédité. Il va faire un autre essai néanmoins, parce qu'il a de la suite dans les idées, bien entendu. Sauf que cette fois, la dose de gaz pur inhalée par le patient est trop forte. Et alors là, le malheureux, c'est plus une anesthésie, là c'est un coma. On a un mal fou à le réveiller, et décidément, pour Wells, c'est compliqué. Il décide d'abandonner sa découverte, il va se réorienter vers le commerce. Finalement, c'était peut-être ce qui lui allait le mieux. Peut-être pas, puisqu'il finit par se suicider en 1848 à l'âge de 33 ans, le pauvre. Alors, néanmoins, cette idée qu'il avait eue, vous êtes bien conscients, et nous qui avons tout le recul historique pour en juger, nous sommes bien conscients que c'était la bonne idée. Certains des collaborateurs de Wells vont poursuivre les recherches de leur côté. Et en ce milieu du 19e siècle, malgré les doutes de certains médecins qui estiment qu'on ne peut pas vaincre la douleur, vous savez, il y a des médecins qui, jusqu'à une époque relativement récente du reste, ont été quasiment attachés à la douleur comme à un des attributs de leur profession. C'est assez étonnant, cette histoire, comme si la douleur, en quelque sorte, pouvait être un indicateur d'une certaine manière. En tout cas, malgré tout ça, la communauté scientifique s'y intéresse. Le mot anesthésie apparaît. Des recherches pour la mettre en pratique prennent toutes sortes de directions. Alors, on va essayer des substances bizarres. L'éther, la morphine, le chloroforme. Finalement, c'est le physiologiste français Paul Bert, le futur ministre Paul Bert, qui parvient à perfectionner l'utilisation du protoxyde d'azote. On est là pas très longtemps après la première expérience, une trentaine d'années, en 1878. Il va faire, lui, un mélange approprié qui rend l'expérience beaucoup plus fiable, plus durable, beaucoup plus facile à reproduire. théoriquement, médicalement, historiquement, nous dit Antoine Debecq, la mise au point de Paul Bert consacre la découverte d'Horace Wells, légitimant les prétentions et les assertions alors considérées comme charlatanesques, voire diaboliques du dentiste américain. C'est donc bien l'anesthésie moderne qu'avait trouvé Wells. Avant lui, l'insensibilisation prolongée de la douleur n'était qu'un rêve généreux. Avec lui et par lui, elle s'est mise à exister.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Mary Reilly, réalisé par Stephen Frears, une musique signée George Fenton. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les origines de l'anesthésie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La lutte contre la souffrance physique est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, les origines de l'anesthésie.
Vous savez que ce sont bien entendu les grandes batailles qui ont rendu un certain nombre de médecins sensibles à cette question, tout particulièrement. Je pense la toute première, c'était la bataille de Solferino. Bien entendu, j'ai eu l'occasion de vous parler ici de la prise de conscience qu'a été cette espèce de boucherie entre les armées françaises et les armées impériales autrichiennes en Italie du Nord. Alors, un peu plus tard, au moment de la Première Guerre mondiale, un brillant chirurgien, il a 35 ans en 1914, il s'appelle René Leriche, lui est particulièrement doué, or il a un intérêt particulier pour le traitement de la douleur. Que ce soit en ambulance, à proximité du front ou au sein des hôpitaux où il est envoyé, il est confronté, vous imaginez, aux souffrances les plus terribles, bien entendu, les souffrances de ces blessés de guerre qui se promènent parfois, vous savez, avec des parties entières du corps complètement mutilées, les fameuses gueules cassées notamment, et face à ces situations désespérées, intenables, intolérables, son intuition, sa rapidité d'action, sa virtuosité, je parle de René Leriche, lui valent sans tarder une solide réputation. Voilà ce que nous dit Antoine Debecq. Il est rapidement reconnu comme le grand chirurgien des blessés de guerre et trouve les moyens de réparer les corps, d'atténuer les souffrances de ces hommes qui arrivent à lui par centaines dans un état terrifiant. Il ajoute un petit peu plus loin, Leriche conservera toute sa vie cette passion pour la chirurgie de guerre, faite d'improvisation et d'imprévu, où les décisions promptes et la hardiesse d'exécution sont les conditions nécessaires mais pas toujours suffisantes au sauvetage des blessés. Là où d'autres se seraient sans doute laissés abattre par l'ampleur de la tâche, ou au contraire y auraient acquis une forme de cynisme absolument endurci, Leriche, lui, va trouver dans cette espèce de délire, dans ce contexte de guerre, une cause à sa mesure, celle d'un combat, un combat nouveau contre la douleur. Nous allons y venir dans un instant avec Antoine Debecq lui-même, bien entendu. Alors, quand après la guerre, Leriche obtient la chaire de clinique chirurgicale à l'université de Strasbourg, il entend bien promouvoir une nouvelle approche médicale. Pour lui, la chirurgie doit s'attaquer aux sources mêmes de la douleur, aux sources physiologiques, afin d'atténuer cette douleur, sinon tout simplement de la faire disparaître. Si je suis venu ici, lance-t-il lors de sa leçon inaugurale, on est en 1925, c'est qu'il se dessine pour la chirurgie un autre idéal que l'ablation des fibromes, des ulcères de l'estomac ou des cancers abdominaux. Nous assistons aujourd'hui à la naissance d'une nouvelle chirurgie, vraie chirurgie physiologique. C'est une ambition tout à fait incroyable, avec bien sûr des épreuves à la hauteur d'une telle ambition. Il faut, se dit René Leriche, il faut saisir les mécanismes de la douleur et agir sur eux. Il va développer une chirurgie de la douleur en partant des nombreuses situations concrètes qu'il a pu recenser dans sa carrière, qu'il étudie, qu'il analyse. Il s'intéresse donc évidemment aux amputés de guerre qui sont très nombreux. Vous savez que beaucoup se plaignent des souffrances causées par leurs moignons, des sensations si vives et qui viennent de membres qui n'existent plus. Ça paraît extraordinaire. On vous a coupé le pied et vous avez toujours mal au pied, en fait. Ça interroge beaucoup le riche, bien entendu. Et il comprend que toutes ces douleurs proviennent souvent de sections nerveuses qui ont été mal réparées. Alors, en pratiquant des opérations très ciblées, il permet de soulager certains patients. Les progrès qu'il suscite vont l'encourager dans une vision sans concession de la douleur. Voilà ce qu'il écrit en 1937. C'est magnifique. La douleur est une manifestation morbide, pathologique, qu'il convient de réduire et non de respecter. Ce n'est pas une réaction de défense ni un avertissement. Ça, c'est une pierre dans le jardin d'un certain nombre de ses confrères. Ce n'est pas une réaction de défense ni un avertissement. Quand la douleur arrive, on en est presque toujours au second acte. Il est trop tard. Le dénouement est déjà en puissance. Il est imminent. La douleur n'a fait que rendre plus pénible et plus triste une situation depuis longtemps perdue. Il n'y a qu'une douleur qu'il soit facile de supporter. C'est celle des autres. Toujours inutile. La douleur appauvrit l'homme. Voilà ce qu'on pourrait appeler un véritable manifeste. Et Roselyne Ray, dans son Histoire de la douleur, résume, aux yeux de le riche, la douleur n'avait pas grande valeur, ni du point de vue du diagnostic, ni du point de vue du pronostic. Et ça, bien entendu, c'est une révolution, car pour de très nombreux praticiens de l'époque, on considérait que la douleur était une sorte d'alerte. C'est comme si on avait mis un petit clignotant sur le patient, si vous voulez. Alors, la médecine, évidemment, remporte des victoires de plus en plus importantes. Mais il y en a qui vont prendre le contre-pied de le riche et qui s'interrogent et qui se demandent même si, après tout, on ne ferait pas néanmoins une erreur en cherchant à tout prix à faire taire la douleur.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et quand vous le souhaitez, vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages, vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH par mail europe1.fr, via la page Facebook de l'émission également. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand. Vous continuerez d'évoquer les origines de l'anesthésie.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La lutte contre la douleur est au cœur de l'histoire et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'anesthésie.
Et de ceux qui vont se poser des questions. Alors même que la science et que la médecine sont en train de progresser, de lutter, de faire reculer, tout est relatif, parce que pour être tout à fait honnête, jusqu'il y a une trentaine d'années, la plupart des médecins ne se posaient pas directement la question, mais en tout cas, on voit la douleur limitée par les anesthésies, et simultanément, certains se posent des questions. Je pense à Georges Duhamel, bien entendu, le futur académicien, qui, pendant la Première Guerre, lui aussi est médecin, il est médecin de guerre, donc comme René le Riche, il est témoin direct des atrocités du front, si vous voulez. C'est une expérience qui va nourrir son œuvre. L'un de ses romans, La possession du monde, qui paraît juste après la guerre, inspire à un critique littéraire le terme qui au départ était un terme péjoratif mais qui va devenir quasiment le nom d'un courant, c'est le dolorisme. À plusieurs reprises dans son œuvre, dans ses œuvres, Georges Duhamel insiste sur ce qu'apporte en termes de connaissances, d'expériences de vie, une souffrance qui serait reçue, reprise en soi, dit-il, en quelque sorte acceptée, souffrance qu'il distingue, lui, clairement dans les termes, de la douleur passive. « Car la douleur, je la subis », écrit-il. « Mais la souffrance, j'en prends possession. Je ne cherche pas tant à la rejeter qu'à la pénétrer. Quand je dis « je souffre », c'est toujours un acte que j'accomplis. » On ne peut pas dire « attention, hein, je ne voudrais pas », parce que nous sommes obligés... étant donné le format de cette émission, de faire parfois quelques raccourcis, je ne voudrais pas qu'on pense que Duhamel, que Georges Duhamel soit complaisant envers la douleur. Mais il va assez loin dans sa logique et il affirme même envier ce que connaît la femme lorsqu'elle donne la vie, cette espèce de souffrance fondatrice en quelque sorte. Dans les années 30, un autre écrivain, Julien Tepp, se veut le promoteur d'une sorte de mouvement doloriste. Il va dans le même sens que Duhamel, mais sans insister sur son distinguo entre souffrance et douleur. Pour lui, la douleur elle-même est essentielle pour vivre dans le réel et même pour devenir meilleur. Pas moyen avec la douleur de composer ou de tricher, écrit-il. Elle est là et cela suffit pour que plus rien ne subsiste autour d'elle. Cette dictature qui saisit l'être entier en libérant l'individu de ses attachements terrestres a pour résultat de le rendre plus compatissant aux autres, au sens étymologique du mot compatissant, et plus lucide vis-à-vis de lui-même. La bêtise, la méchanceté, la guerre même viennent de ce que les hommes ne savent pas imaginer la souffrance. On pourrait se tenter de compléter sa phrase, imaginer la souffrance d'autrui, bien entendu. voyez qu'il y a un rapprochement à faire entre cette façon d'aborder la souffrance et évidemment la conception qu'on a eue pendant tant de siècles, le christianisme. Dans cette logique, il ne s'agit pas de chercher la souffrance et encore moins de la provoquer, mais elle peut, lorsqu'elle survient, avoir un sens, voire même, et je sais que je vais choquer certains en le disant, mais du point de vue du doloriste, elle peut avoir des vertus. Beaucoup de penseurs ont souligné la nécessité de comprendre, d'éprouver les limites humaines. La souffrance a été décrite comme une sorte de moyen de vivre aussi, une forme de communion avec la passion du Christ. Vous voyez qu'on est là dans une, évidemment, dans une conception tout à fait chrétienne. Voilà par exemple à la fin du XIXe siècle ce que Jean Lyonard, qui est un théologien, explique dans l'apostolat de la souffrance. Pour être admis à partager sa gloire dans le ciel, il faut imiter ses vertus sur la terre, il faut porter sa croix après lui en conformité avec les sentiments de son cœur, c'est-à-dire avec humilité, patience et amour. L'exemple même des souffrances de Jésus, là, sont données comme, quasiment comme un programme. Alors, peut-être en partie influencé par cette vision chrétienne, loin des idées de Le Riche, un certain nombre de professionnels de santé, eux aussi, se sont mis à porter une vision positive de la douleur, dans certaines limites évidemment. Dans cette logique, note Antoine de Bec, la douleur est bienfaisante puisqu'elle est la manifestation la plus ardente de la vie dans le corps humain, d'où l'utilisation de moyens de guérison souvent plus douloureux que la souffrance initiale. D'où également la condamnation longtemps proférée de l'usage des analgésiques, anesthésiants, de la morphine ou des antidouleurs chez bon nombre de médecins, jusqu'à tardivement dans le XXe siècle. Combien de souffrances ont-elles été endurées par les malheurs au nom de cette conception de la bonne douleur? Eh bien, je ne suis pas certain qu'à l'heure où nous parlons, ce débat soit tout à fait éteint, et je pense même qu'au contraire, les deux parties sont encore extrêmement vivaces. Bonjour Antoine de Bec, merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit un livre passionnant, vous avez une expérience personnelle qui ne l'est pas moins, nous y venons dans un instant.